Julia Kristeva, vos deux derniers ouvrages s'intitulent Histoire d'amour et Au commencement était l'amour. Pourquoi parler d'amour?
Eh bien, il m'a semblé que c'était un sujet d'actualité, comme toujours sans doute, mais que dans le monde moderne, nous n'avions pas de discours d'amour. Cela paraît peut-être un peu brutal comme affirmation, je voudrais m'expliquer. Quand on se demande qu'est-ce qu'une civilisation, on constate toujours que c'est un groupe social qui arrive à construire un discours sur les grands moments de crise que traversent les individus. Des grands moments de crise comme la naissance, la mort et l'amour aussi. Prenez les religions, ce sont souvent des codes, des discours collectifs qui savent parler de ces états de crise. Mais sur un plan plus laïque également, la grande tradition des troubadours, c'est une tradition qui arrive à construire une rhétorique de l'amour. Le romantisme est une manière très différente des troubadours de parler d'amour aussi. On peut se demander si notre moderne époque a une manière de parler d'amour. Et je pense que non, sur le plan général. Vous trouvez toujours des chansons qui parlent d'amour, quelques livres de romans, des poèmes,
Aragon,
etc.
Aragon, Éluard, par exemple.
Oui, mais ce sont des discours individuels. Ce n'est pas un code, c'est-à-dire une manière où toute la communauté se retrouverait comme on se retrouve dans le miroir que vous tend une religion qui est communautaire, qui concerne la population dans son ensemble. Ce sont donc des discours individuels et qui puisent un peu, quand vous prenez Aragon ou Éluard ou Prévert ou Brel, qui puisent un peu à l'archéologie des discours d'amour. Un peu de Moyen-Âge, un peu de troubadour, un peu de Renaissance, un peu de romantisme. C'est quelque chose d'hétéroclite et de poudroyant qui résume bien l'état d'esprit de la modernité aussi. Le temps dans lequel nous vivons, qui n'est pas un temps homogène, qui est un peu un temps disparate. Et peut-être en raison de cette non-existence d'un discours global, général, dans lequel se reconnaîtrait la société dans son ensemble, nous vivons une sorte de malaise dans ces expériences, justement, limites, dans ces expériences de crise, et en particulier dans les expériences amoureuses. Et il m'a semblé qu'il y a une tentative de construire un discours global, je reviendrai tout à l'heure sur cette globalité parce qu'elle reste quand même assez individuelle, mais quand même un discours général qui pourrait contenter le maximum de nos contemporains sur ce plan de l'amour, de l'épreuve amoureuse, de la passion amoureuse, et c'est le discours analytique.
Bon, si vous permettez, vous m'avez dit qu'il y avait un malaise, n'est-ce pas? Un malaise qui est traduit par cette impossibilité actuellement d'un discours amoureux. Comment expliquez-vous ce malaise? Est-ce que vous pouvez déceler des raisons de ce malaise?
Eh bien, je crois que le discours d'amour, il concerne des strates de la vie psychique qui se sont trouvées un peu mises à l'écart, sinon évacuées par une certaine forme de rationalisme qui s'est affirmée avec toute cette révolution que la pensée européenne a connue depuis Descartes, à travers l'avènement de la philosophie et jusqu'à la constitution du discours technique des sciences contemporaines, et qui pousse essentiellement l'individu dans la performance intellectuelle, dans la maîtrise technique et dans la maîtrise de soi. Ce qui est tout à fait louable, et ça nous conduit à construire des fusées, des machines à laver, toutes sortes de choses. Mais les états de faiblesse, les états de crise, encore une fois, les états qui sont davantage ancrés sur ce que Freud a appelé l'inconscient, dans ce qui échappe à la rationalité classique, eh bien ces états-là se sont vus marginalisés. Et les seuls endroits qui arrivent à en construire des discours, ce sont pour moi les discours imaginaires, c'est-à-dire les arts, mais qui restent, nous y reviendrons sans doute, des phénomènes tout à fait individuels et souvent sans diffusion satisfaisante et communautaire. Et à ce moment-là, justement, dans cette espèce de vide entre une image sociale qui pousse à la performance, à la maîtrise, au calcul, à la technicité, d'une part, et ces discours individuels, ces arts plus ou moins accessibles, qui reste disséminé, qui reste un peu schizé.
Et souvent auquel on est réfractaire, n'est-ce pas ? Ce discours des arts est un discours extrêmement difficile à comprendre.
Très difficile, surtout dans la forme abstraite que prend l'art, où les expériences ont l'air très, très poussées, très, dans une sorte de tunnel noir où la psychose est souvent mobilisée et où le commun des mortels se reconnaît peu, surtout quand il n'est pas guidé. On se trouve dans une sorte de vide. Et j'ai l'impression que le discours analytique, entre autres vocations, a justement celle-ci d'être le seul endroit reconnu par le contrat social où j'ai droit de parler d'amour, c'est-à-dire des blessures amoureuses que j'ai vécues, d'une relation que je suis en train d'élaborer avec un analyste et qui me permettra de repasser sans doute par mes traumatismes anciens pour devenir quelqu'un capable de nouveaux amours, de nouveaux échecs évidemment, mais aussi d'une nouvelle vie. Et donc, il m'a semblé, mais c'est déjà chez Freud, que la relation psychanalytique, définie comme transfert et contre-transfert, est une variante qui est peut-être la variante moderne du discours amoureux.
Oui, c'est quand même étonnant, n'est-ce pas ? Parce que j'avais toujours pensé, pour ma part en tout cas, que la relation avec un analyste, c'est une relation justement de type rationaliste, scientifique. Et j'ai été très étonné lorsque, dans un ouvrage assez récent, Au commencement était l'amour, vous avez présenté la relation entre l'analysé et son analyste comme une relation amoureuse.
Oui, écoutez, c'est vrai que déjà chez Freud, et surtout plus tard à travers l'aventure de la psychanalyse chez Lacan, on a assisté à une grande emphase mise sur l'aspect scientifique de l'analyse. Je pense qu'il y a des raisons pour cela et c'est un aspect qui reste vrai. L'analyse s'est constituée dans ce grand mouvement qui a présidé à la constitution des sciences humaines et qui est le mouvement de dissolution du continent théologique, qui a vu à la fin du 19e siècle apparaître des sciences humaines qui se sont posées comme but de comprendre, de nous expliquer qu'est-ce que le sens. Le sens qui est le sens de l'aventure humaine, que la théologie essayait de penser à sa façon, et bien maintenant il devient un objet de connaissance. On va disloquer cette vaste aventure du sens humain et on va dire, voilà, il y a l'anthropologie, nous allons voir comment le sens se constitue dans le domaine de l'anthropologie, il y a la linguistique, on va voir le sens dans la parole, il y a d'autres domaines, l'histoire, l'ethnologie, la sociologie, etc. Et puis pour ce qui est de l'expérience psychique, on va essayer de cerner de manière très précise le sens dans l'expérience psychique et ce sera la psychanalyse qui, par conséquent, va se constituer en bord à bord avec la psychiatrie en tant que continent scientifique. Et par conséquent, elle va revendiquer ses lettres de noblesse en tant que science. Ce que je dis, moi, Freud, est valable, vérifiable, et par conséquent, peut prétendre au panthéon des sciences. Seulement, Freud, tout en étant un rationaliste extrêmement ferme et convaincu, a, il me semble, été toujours fasciné par des domaines qui sont d'une autre rationalité. Et, par exemple, le domaine de la religion, Moïse et le monothéisme, totem et tabou.
L'avenir d'une illusion.
L'avenir d'une illusion, sur lequel il faudrait peut-être insister tout à l'heure un peu plus. Le domaine des arts, lorsqu'il dit que les écrivains et les artistes nous ont précédés dans cette voie qu'il a découvert de l'inconscient pour lui. Par conséquent, il y a une sorte de carrefour sur lequel se situe la psychanalyse, qui est constituée par la voie de la science, d'une part, et la voie de cette autre rationalité. En conséquence de quoi, la rationalité psychanalytique est pour moi non pas un abandon de la rationalité classique scientifique, mais un élargissement qui essaye par conséquent d'intégrer dans le domaine du rationalisable, du compréhensible, des phénomènes qui semblaient être externes et irréductibles. Et c'est là que Freud construit son fameux modèle du conscient et de l'inconscient en disant il y a des phénomènes qui échappent à la logique de la conscience, mais c'est une autre logique. Ce n'est pas de l'illogique, c'est une autre logique. Il faut essayer de trouver quelle est cette autre logique. L'autre scène, les différentes logiques qui se jouent sur cette autre scène, du rêve ou des lapsus ou des désirs sexuels, des jouissances, etc. On assiste donc par conséquent, non pas à un abandon de la rationalité, mais à une tentative d'élargissement de l'outil rationnel. Mais par rapport à cet élargissement, le rationaliste classique reste extrêmement méfiant et souvent hostile. ce qui fait que l'analyse, actuellement, et depuis le début de son aventure, se trouve, si vous voulez, entre deux feux. D'une part, le feu d'un rationalisme qui est pour moi restrictif et borné, et d'autre part, le grand domaine de l'irrationnel qui considère que la psychanalyse est réductrice, puisqu'elle essaye de comprendre.
Alors revenons, si vous voulez, à notre question.
Oui.
Vous allez jusqu'à dire donc que dans la relation que vous avez avec un analysé, vous avez une relation amoureuse.
Oui, alors cela revient à notre question initiale et ça renoue la dernière. Alors comment est-ce qu'il travaille, Freud, pour essayer d'atteindre cette logique de l'inconscient qui échappe à la conscience? Eh bien, il va, dans un premier temps, hypnotiser ses patients. Après, il va se rendre compte que c'est une technique qui n'est pas très opérante et qui en plus comporte le désavantage de priver le sujet de ses moyens de compréhension. Donc il va abandonner cette technique. Il va proposer le dispositif qu'on dit actuellement du divan en fauteuil, donc quelqu'un qui est couché sur un divan, qui ne voit pas son analyste et qui associe librement. Mais dans cette association libre, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vient, il fait confiance à celui qui l'accueille. Il se noue entre eux une relation tout à fait extraordinaire, qui n'est pas simplement une relation rationnelle de connaissance et d'intellection. C'est une relation que nous appelons de transfert et qui consiste à transposer sur la figure de l'analyste tous les traumatismes, tous les émois, les bonheurs, les peines, les angoisses, les mélancolies, la peur de la mort, les jouissances, l'érotisme. Donc, cette vie affective qui est faite de représentations de mots, de représentations de choses, de représentations d'affects, donc toute une stratification de la vie psychique qui ne se réduit pas à la pensée consciente. Donc, tout cet appareil global, je le transfère sur l'analyste, lequel d'ailleurs ne reste pas neutre non plus.
Il n'est pas indifférent.
Il n'est pas indifférent, sans quoi la cure ne peut pas fonctionner, en fait. Il faudrait qu'il opère un mouvement analogue sur son patient, et c'est dans ce va-et-vient, n'est-ce pas, entre les deux, qui est un va-et-vient extrêmement émotif, même s'il reste dominé, maîtrisé.
Même de la part de l'analyste.
Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle le contre-transfert, n'est-ce pas, qui doit être évidemment contrôlé, car si je suis mon patient, je suis obligée de le suivre en m'identifiant à lui, presque dans un état d'osmose, pour pouvoir vraiment être au lieu même où il souffre, au lieu même où il fait une crise convulsive dans le métro alors qu'il n'y a rien sur le plan biologique qui le conditionne à faire ça, au lieu même où il arrive à avoir des inhibitions sexuelles, des impuissances, de frigidité. Je suis obligée donc de me mettre presque à sa place, dans un état de fusion. Mais ce n'est que le premier mouvement. Il faut aussi que je puisse me décaler. Donc je ne reste pas dans cet état de fusion, parce que si nous restons au fusionnel, c'est terminé. Bon, ce n'est pas de l'analyse, c'est une sorte de jeu comme ça confusionnel qui peut donner des jouissances à l'un à l'autre, mais ça ne conduit pas l'individu qui me fait confiance à s'en sortir. Donc l'analyste est conduit à cet état affectif de fusion et d'identification avec son patient, mais il est nécessairement aussi dans une position de décalage, de distance qui lui permet aussi de comprendre ce qui se passe, de comprendre aussi bien le mouvement qui se joue chez l'autre que le mouvement qui se joue chez lui. D'où ce mouvement permanent, si vous voulez, de fusion amoureuse et de compréhension.
Vous voyez, ce que je veux comprendre finalement, c'est ce que c'est que l'amour. Je vous dirais carrément, n'est-ce pas, que je suis parfois un peu embêté quand on parle d'amour.
Moi aussi.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'on va trop vite, n'est-ce pas?
Oui,
je ne nie pas que l'amour puisse exister, mais j'ai souvent l'impression que l'on dit amour comme ça, à tout propos, pour rien, et qu'on ne sait pas très bien ce dont on parle.
Oui.
Alors, ce que j'essaie de savoir, c'est de quoi on parle quand on parle d'amour?
Eh bien, je peux essayer de vous donner deux réponses. L'une qui est une définition et l'autre qui, en fait, se dérobe à la définition. Pour Freud, il y a une ambiguïté à cet égard. D'une part, comme je viens de le dire, il fixe en quelque sorte l'amour comme base de la cure, puisque s'il n'y a pas cette expérience dont nous parlions tout à l'heure, il n'y a pas de connaissance de la vie psychique de l'autre, et par conséquent, l'analyste ne peut rien pour aider son patient. Donc l'amour est reconnu comme nécessaire à la cure. Mais dans un second temps, Freud se méfie beaucoup de cet état amoureux dont vous dites en effet à juste titre qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Il s'en méfie à tel point que quand il parle de l'amour dans certains textes, il parle de l'hypnose et du fait que l'individu dans l'état amoureux se débarrasse de sa conscience, de sa maîtrise et fait en quelque sorte don de soi à l'autre à tel point qu'il peut être complètement manipulé, inféodé, exploité. Et nous savons tous comment dans l'état amoureux nous pouvons être victimes de nos amoureux ou de nos amours.
Donc, l'amour est une illusion.
L'amour est une illusion et même peut être une sorte de drogue, d'opium qui vous prive de vos capacités jusqu'au moment où vous vous retrouvez un jour floué. Mmh. Donc il est tout à fait conscient de ça et il met en quelque sorte en garde les gens, les analystes et les analysants de ce point de vue. Dans ses écrits, quand il essaye de prospecter la vie psychique, il donne quand même une certaine possibilité de définition de l'état amoureux que j'essayais dans une première partie de mon livre Histoire d'amour de développer à partir de ce qu'on connaît actuellement de la vie psychique. Il me semble qu'on peut déceler dans l'état amoureux deux mouvements. D'une part, une gratification narcissique et d'autre part, une idéalisation.
Gratification narcissique. C'est ça qui est assez intéressant, n'est-ce pas, que vous ayez repris ce thème de Narcisse qu'on croyait oublié dans cet ouvrage que vous venez de citer, Histoire d'amour.
Oui, on croyait oublié, pas tellement en fait, parce que beaucoup de travaux récents en psychanalyse, en particulier dans la psychanalyse américaine, les Anglais aussi, qui s'occupent de la petite enfance ou bien des structures psychotiques, ont essayé de réhabiliter cette notion de narcissisme.
Dans l'analyse.
Dans l'analyse.
Mais dans l'imaginaire, disons, des poètes, des peintres, etc., c'est un thème qui avait complètement disparu.
Mais à tort, à mon avis, parce que justement, dans l'expérience esthétique, dans l'expérience de l'écriture, on peut prendre Proust par exemple, l'état de lien presque fusionnel de l'enfant avec l'image maternelle, une sorte de havre de bonheur et de fusion avec un autre qui n'est pas encore distinct de moi-même. Ces états-là sont largement décrits par l'expérience esthétique. Et c'est un peu ça qu'on entend quand on parle de narcissisme, c'est-à-dire un état de la subjectivité où je ne suis pas encore séparé de l'autre, où moi et l'autre, on est un. Et l'épreuve du miroir vient scander, si vous voulez, cette expérience narcissique et me permettre de me dissocier. Quand je me vois dans le miroir et je me reconnais, voilà, c'est moi, c'est déjà un premier moment d'autonomisation, de discernement entre moi et l'autre. Mmh. Mais comme chacun sait, dans le mythe de Narcisse, il a beaucoup de mal à se reconnaître dans le miroir. Il ne sait pas si c'est lui, si c'est un autre. Et au moment où il reconnaît que c'est lui, ça lui paraît tellement épouvantable qu'il ait pu aimer une image qui est lui, qu'il se suicide. Et après, il y a une sorte de résurrection qui se produit, puisque c'est une fleur qui apparaît à cette place. Et c'est une histoire qui est d'ailleurs très belle, parce qu'en plus, elle se situe dans sa forme finale, telle qu'on la trouve chez Ovide, presque à la même époque que le mythe de la résurrection christique. Donc il y a là deux résurrections, celle de Narcisse et celle du Christ, qui sont presque concomitantes au point de vue historique. Mais enfin, pour en revenir à l'amour, il y a donc dans l'expérience amoureuse une sorte de commémoration de cet état fusionnel où je ne suis pas séparé de l'autre et où mon image est dans un état d'instabilité. Mmh. Et c'est un état d'une grande jubilation et de grands risques. On voit les jubilations, combien c'est protecteur, combien c'est gratifiant. Les risques, c'est que je perds mon identité.
Mais justement, est-ce que vous citiez Proust tout à l'heure, n'est-ce pas ? Proust dit quelque part, à l'être qu'on a le plus aimé, on n'est jamais aussi fidèle qu'à soi-même. Et vous-même, dans le livre Histoire d'amour, vous insistez précisément sur cet amour de soi comme fondamental, comme presque fondateur, si je peux dire.
C'est quelque chose de tout à fait essentiel et vous avez raison, ça a été un peu culpabilisé, n'est-ce pas ? Il ne faut pas s'aimer soi-même parce que c'est égoïste, n'est-ce pas ? Dans cette optique de performance et d'activité sociale, de don à l'autre, on a oublié que peut-être il y a un fondement de ce don à l'autre qui consiste d'abord à s'aimer soi-même. Et par contre, beaucoup de théologiens ont insisté sur le fait que l'amour de soi peut être la base d'une relation oblative vis-à-vis de l'autre. C'est déjà dans la Bible, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais j'étais, moi qui ne suis pas théologienne et donc qui prospecte ce domaine de la théologie comme une laïque et incompétente, j'étais absolument séduite de voir comment, par exemple, chez saint Thomas, il y a des pages extraordinaires qui sont des valorisations de l'amour de soi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'aimer de manière égoïste. Il y a toutes sortes de règles, n'est-ce pas, qui conduisent à s'aimer dans le bien. Alors toute la définition du bien est quelque chose d'extrêmement élaboré. Mais il y a quand même ce précepte qui consiste à s'aimer soi-même et à s'établir en soi. C'est quelque chose de magistral que la théologie
a. Est-ce que vous pourriez développer justement cet amour de soi qui pourrait, comme vous le disiez tout à l'heure, être absolument condamnable, n'est-ce pas? Enfin, souvent on dit ça, il faut s'oublier, il faut absolument se dépouiller de soi, il faut se tourner vers les autres. Et puis tout à coup, dans cet ouvrage, je répète le titre, Histoire d'amour, vous essayez de montrer, en utilisant cette expérience des théologiens et même des mystiques, comment cet amour est absolument important pour un équilibre, pour une maturité.
Il y a toute une histoire de la théologie qui a essayé, d'une certaine façon, de réhabiliter l'amour de soi dans le bien. Donc, en essayant, par conséquent, de nous garder par rapport à des penchants égoïstes ou agressifs, parce qu'il peut y avoir, encore une fois, cet amour égocentrique. Alors, avant d'arriver à saint Thomas, il faut peut-être parler quelques minutes de Plotin, qui me paraît être un point central de cette inversion du narcissisme vers l'amour de soi possible. On a souvent remarqué chez Plotin, qui est un néoplatonicien, comme chacun sait, on a souvent remarqué le fait que toute sa cosmogonie est construite sur le reflet. Tout est reflet de reflet, le monde est un monde de reflets. Et il lie d'ailleurs lui-même ce reflet au reflet que Narcisse voit de lui-même dans l'image.
Illusion.
Illusion. Donc, cette illusion, dit-il, est condamnable. Narcisse qui se voit dans son image et qui s'aime, il a raison de se tuer parce que c'est une illusion. On ne peut pas s'aimer comme ça soi-même sans aucun autre appui, sans aucune justification. Mais il va trouver, et c'est là que le christianisme, quelque différent qu'il soit du néoplatonisme, va puiser néanmoins un antécédent, sinon une source, il va construire un monde ternaire. Il y a moi, il y a mon image, il y a le nous. L'un, un principe transcendant. Je peux m'aimer dans mon image à condition que je sois sous l'œil de ce principe transcendant qui est le bien, qui est l'un. Et à ce moment-là, une figure extraordinaire se produit dans la pensée de Plotin, qui est la transformation du face-à-face de Narcisse avec son image en un autre face-à-face qui sont les mains jointes de la prière. Dans les mains jointes de la prière, ce sont les deux aspects de moi-même, mais qui vont se conjoindre, et au lieu de me contempler dans mon image physique, je peux me contempler dans mon monde intérieur. C'est l'introspection. J'ai droit de me contempler, de me regarder, de m'aimer, sous l'œil, sous le regard de l'un, du bien, et à ce moment-là, j'essaye de faire une ascension à travers ma contemplation vers le bien. C'est la prière, donc, qui va remplacer le face-à-face narcissique et condamnable de Narcisse avec son image. J'ai dit par conséquent que dans la prière, il y a une sorte d'intégration de l'univers, gardons le mot narcissique pour le péjoratif, mais de l'univers narcissien, une réhabilitation de cette espèce d'amour pour soi, à condition que ce soit un amour pour le bien, que garantit cette troisième instance, n'est-ce pas, qui n'est pas moi et mon reflet, mais un tiers qui est cet un, plotinien, et qui va se retrouver chez les chrétiens sous l'image de Dieu, en fait, qui garantit le bien et le beau, et que saint Thomas va développer à sa façon. Et à ce moment-là, il va recommander aux croyants de s'établir en lui-même, de s'établir en soi, en s'aimant pour le bien.
Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, s'établir en soi? C'est quand même...
Eh bien, souvent, ça paraît très abstrait. Souvent, on a parlé avec les étudiants. Vous savez, au moment de mai 68, les gens qui commençaient à en avoir un peu marre de la société de consommation allaient s'établir dans les usines. On s'établit dans les usines pour faire du bien aux prolétaires, aux pauvres et aux malheureux. Et souvent, c'était des échecs parce qu'on s'établissait pour un autre sans avoir réglé ses propres problèmes. Et par conséquent, on transportait à l'autre qu'on allait aider tout un magma de conflits, ce qui faisait que ni l'un ni l'autre n'arrivait à s'en sortir. Et par conséquent, ces établissements, du moins un certain nombre d'entre eux que j'ai vus à Paris, se terminaient dans des échecs, des fuites et d'autres expériences qui essayaient de les prolonger par d'autres moyens. Alors, s'établir en soi, ben, c'est ce que fait l'analyse. Ça consiste à se connaître, à connaître non seulement son univers conscient, mais aussi ses désirs, ses soucis, ses violences, des désirs qui sont souvent des désirs de mort de soi, mais aussi de mort de l'autre. Et lorsque cette connaissance de soi, consciente et inconsciente, est acquise, il y a non pas la liquidation de mes horreurs, de ma personnalité dans ce qu'elle a d'abominable. Je ne les liquide pas nécessairement, même si certains aspects de tout ce qui est intolérable, j'arrive à les juguler ou à les sublimer. Mais je peux vivre avec, je peux les moduler, je peux éventuellement les jouer, les refaire, faire de ça un monde de création, un monde de vie, un monde de renouvellement. Et à partir de là, être utile à moi-même et aux autres.
Oui. Je reviens justement à la phrase de Proust, est-ce que finalement, l'amour des autres n'est pas une illusion? Est-ce que dans les autres, ce n'est pas toujours soi-même que je recherche?
Alors, il y a cet aspect-là, donc je recherche quelque chose d'archaïque, cette espèce de noyau narcissique antérieur et pour lequel je veux toutes sortes de gratifications et d'oblativité. Il y a aussi le fait que dans l'amour, je ne suis pas quand même seule, il y a l'autre. Sans quoi, ce serait uniquement un amour de soi. Alors, cet autre, de quoi il me sert? Il me sert d'idéal. Et c'est là qu'on trouve l'illusion. L'amoureux adore son amant ou son amante parce qu'il voit dans cet être autre quelque chose de sublime. Il arrive donc à magnifier l'autre de manière telle que cet autre sert de quelque chose qui est l'exemple de ce vers quoi il faut aspirer dans cette vie-là ou dans l'avenir ou dans une autre vie. Donc toute sorte de forme d'idéalisation se projette sur la personne de l'amoureux. Et à ce moment-là, on peut se demander est-ce que ce n'est pas une illusion forcément qui peut être extrêmement nocive puisque ça nous fait vivre dans un univers de mensonges. Eh bien, c'est là que je dis oui et non. Et peut-être pour expliquer mieux pourquoi oui et non, il faudrait revenir au texte de Freud, L'avenir d'une illusion. Vous savez que dans ce texte, en parlant de la religion, Freud dit que c'est l'univers de l'illusion. Et que lui, en tant que scientifique, il veut débarrasser l'humanité de cette illusion. Mais il y a deux moments assez troublants dans ce texte. Quand il essaye d'expliquer en quoi la religion est une illusion, il donne l'exemple de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique alors qu'il croyait être ailleurs. Et donc c'est une illusion. Enfin, c'est quand même une illusion extraordinaire parce que ça l'a conduit à ne pas rester dans le vide, mais à produire quelque chose et quelque chose qui a été un dos à l'humanité, aussi bien sur le plan de l'aventure que sur le plan de la science. Donc l'illusion, elle découvre une vérité. Il s'agit simplement de lui changer le mot, le terme de cette vérité pour qu'elle devienne une vérité. Mmh. Autrement dit, l'illusion est dans le frayage de la vérité, dans le moment où la vérité se fraye un chemin dans la conscience de quelqu'un, dans la pratique de quelqu'un ou pour l'humanité. L'autre exemple qu'il donne, c'est l'alchimie. L'alchimie, c'est une illusion. On découvre la pierre philosophale, l'or, etc. Mais c'est quand même la base de la chimie. La chimie scientifique va sortir de là. Autrement dit, dans l'univers de l'illusion, tout n'est pas à rejeter. Mmh. Il y a un travail de la vérité qui se fait dans l'illusion, et c'est déjà la position de Freud. Donc, vous voyez, oui. Là, une sorte d'ambiguïté. Deuxième point, Freud dit, bon, nous, les scientifiques, on va se débarrasser de tout ça, mais il se demande, est-ce que la science n'est pas une illusion? Donc, méfiance. Mm-hmm. Et d'autre part, il dit, mais l'homme, il a besoin d'illusions. Et donc, même si nous, scientifiques, nous allons le débarrasser ou nous voulons le débarrasser, l'illusion est là, la vie longue, et nous vivrons très longuement encore dans le domaine de l'illusion. Alors, ça, c'est déjà chez Freud. Vous voyez que son rationalisme n'est pas quand même aussi...
Il est mitigé.
Il est mitigé. En revanche, moi, je trouve que dans le monde moderne, et surtout avec les formes de malaise que nous rencontrons, et en particulier ces structures qu'on appelle narcissiques, justement, et qui sont des gens qui sont beaucoup plus proches de la psychose que de la névrose. Autrement dit, dont l'appareil psychique est beaucoup plus fragile, dont la maîtrise rationnelle se fracture plus facilement, et qui sont beaucoup plus proches de la régression, de cette demande d'oblativité, de structure d'accueil, d'enveloppe maternelle, tout ce que vous voulez dans ce sens-là, et d'amour. Eh bien, pour ces gens-là, on a été conduit à penser que l'illusion, non seulement n'est pas un fardeau, mais elle est un moment important, sinon essentiel, de la cure. Ce qui veut dire pratiquement que dans une grande partie du processus analytique, le travail qui est fait avec ces personnalités narcissiques ou borderline ou proches de la psychose est un travail de reconstitution qui consiste en fait à conduire comme un enfant narcissique quelqu'un vers éventuellement une autonomie. Mais cette autonomie reste souvent un mirage et une impossibilité. Et par conséquent, une grande partie de ce corps à corps, bord à bord, transfert contre transfert qui se joue dans l'analyse, travaille avec le soutien, le holding, la gratification, pour permettre à l'individu de se construire. Et donc, l'illusion joue à ce moment-là un rôle constructeur.
Julien Kristeva, je vous remercie.